Avec lui, tu veux rester poigné dans le trafic. Avec lui, jamais besoin de reprise. Le but est tout le temps bon. Pour tout savoir, voici Martin Leclerc.
Bon matin, Martin, comment vas-tu?
Bon matin, Greg, ça va bien, ça va bien? Surviving. Ça va.
Ta voix sonne déjà mieux qu'hier. Ce virus-là, on dirait, cette année, là, frappe vite, fort, puis après ça, oups, ça revient vite aussi.
Ah ouais, mais là, je suis au compte de 8, là, je vais finir par me relever. Ça va, mais... Ça fait un petit éclairci dans ma journée de te parler le matin.
Ah, c'est parfait. On aime ça comme ça. Puis écoute, Martin, on souhaite que tu te relèves. Alors, on est dans ton coin, puis on crie fort pour que tu te relèves. Tu es au compte de 8, c'est parfait. Ça compte encore.
Exact.
Toi, tu peux te relever, contrairement à Derek Lalonde, qui lui... a subi au lendemain de Noël le couperet des Red Wings de Détroit chez le fameux Iser Plan qui est plus nébuleux que jamais, je pense.
Ouais, puis tu sais, il y a une grande proximité entre les organisations des Red Wings de Détroit puis du Lightning de Tampa Bay. Steve Yzerman vient du Lightning, arrivait des Red Wings auparavant, fait qu'il y a du personnel qui se promène entre les deux organisations, puis Derek Lalonde était un adjoint chez le Lightning de Tampa Bay auparavant, puis quand il a décidé d'aller rejoindre Steve Yzerman, j'imagine qu'il envisageait le même genre de sécurité ou d'encadrement que John Cooper, dont John Cooper profite à Tampa Bay, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut avoir des résultats.
Ouais, exactement. C'est une business de résultats, ce que John Cooper a eu année, et il y a encore d'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard.
Ouais. Puis, mais pour avoir des résultats, il faut que tu aies les chevaux aussi pour avoir les résultats. Puis chez les Red Wings, ce qui est arrivé, bon, ben c'est ça, c'est que Steve Yzerman est arrivé en 2019. L'équipe allait mal depuis un bout de temps. L'équipe avait déjà commencé depuis 2 ans à sélectionner dans le top 10 au repêchage, à avoir des choix avantageux. Puis ils ont appliqué à Détroit exactement la même recette que chez le Canadien de Montréal quand Marc Bergevin s'est aperçu que son département de recrutement allait pas bien puis qu'il produisait pas de joueurs. Il s'est mis à empiler des choix de repêchage pour donner plus de chances à ses recruteurs de se présenter au bâton pour prendre plus d'élan. Tu dis, logiquement, s'ils prennent plus d'élan, ils vont frapper plus de balles en lieu sûr éventuellement, puis on va aller chercher plus, on va développer plus de joueurs de la Ligue nationale.
Ben oui.
Puis chez les Red Wings, c'est pas ça qui se passe. Et ça explique un peu la débandade de cette organisation-là. Depuis que Steve Yzerman est là, au lieu de construire avec des jeunes, il est constamment obligé de patcher, de boucher des trous dans son alignement en allant chercher des vétérans à gauche et à droite, puis pour entourer le peu de jeunes là, que son organisation a réussi à développer. Puis là, bon, on regarde les Red Wings l'année passée, ont failli participer aux séries avec leur groupe de joueurs vétérans. Là, tu sais, ça s'est terminé dans le dernier match, à la dernière minute, à savoir s'ils allaient participer aux séries ou pas. Mais ils ont toujours pas participé aux séries depuis que Steve Yzerman est là. Puis tu regardes, depuis que Steve Yzerman est arrivé, ils ont choisi 4 autres fois dans le top 10 au repêchage. Donc, ça veut dire 6 fois... depuis 2017, qui ont choisi dans le top 10 au repêchage. Ils ont eu 61 sélections au repêchage là, entre 2017 et 2023. Puis ils ont produit, avec ces 61 sélections-là, ils ont produit seulement 3 joueurs réguliers de la Ligue nationale. Trois en 61, c'est pas une grosse moyenne au bâton. Puis ces 3 joueurs-là, tu as Joe Veleno. On s'entend, c'est un joueur de soutien dans la Ligue nationale. C'est pas un gars qui va faire partie du noyau. Tu as Maurice Seider, le gros défenseur, puis Luca Raymond qui éclot bien, qui a 22 ans, qui produit offensivement. Puis ils ont 2 autres jeunes, l'attaquant Marco Casper, qui était le 8e choix en 2022, qui est en train d'éclore tranquillement pas vite. Le défenseur Simon Edvinson, 6e choix en 2021. Ces deux jeunes-là sont en train d'essayer de faire leur place. Mais tu compares ça avec la reconstruction à laquelle nous autres, on assiste à Montréal. Depuis que le Canadien s'est mis à empiler des choix de repêchage, là, bon, le Canadien a choisi, entre 2017 et 2023, a pigé une fois de moins que les Red Wings dans le top 10. Puis il y a déjà 8 joueurs réguliers dans la Ligue nationale qui ont émergé de ces repêchages-là. Puis là, je parle pas de Jordan Harris qui a été échangé contre Patrick Laine. C'est un actif qu'on a utilisé. Jaden Struble qui essaie de faire sa place de joueur régulier dans la Ligue nationale. Raphaël Harvey-Pinard qui a joué avec l'équipe. Jakub Dobesh qui va probablement devenir un des gardiens de l'équipe éventuellement. Joshua Roy qui va jouer éventuellement avec le Canadien. Oliver Kapanen qu'on a vu en début de saison. Logan Mailloux qui va jouer, je pense, régulièrement avec le Canadien. Owen Beck qui a des chances raisonnables de jouer dans la Ligue nationale. Florian Jacquet qui est en train d'éclore. Jacob Fowler devant le filet. David Rainbacker. Ça fait beaucoup de joueurs là, produits par le pipeline du Canadien par rapport à ce qu'on voit chez les Red Wings.
C'est incroyable.
C'est deux univers complètement différents.
Et on est en avant deux au classement général. On a un point en avant deux. Alors, le congédiement de Derek Lalonde qui lui paye pour probablement des erreurs de Steve Yzerman. Le département également de scouting, je m'excuse, j'ai pas le terme français ce matin, je vais l'avoir après mon deuxième café tantôt.
De recrutement.
Merci Martin, t'étais la personne toute désignée pour m'aider. Mais on s'en va engager. Tu sais, si tu fais une reconstruction, je crois que tu dois croire en tes éléments que tu as dans l'organisation, notamment tes éléments sur la glace, mais derrière le banc aussi. Les Griffins de Grand Rapids vont très bien présentement. T'as des candidats, dont l'entraîneur-chef Dan Watson, qui est là, qui peuvent reprendre l'équipe et tenter de reconstruire avec eux. Mais non, tu t'en vas chercher Todd McLellan, qui, pour moi, est une embauche un peu mitigée. Là. Je sais pas trop comment je me sens par rapport à ça.
Oui, mais tu regardes son palmarès à McLellan, c'est pas un entraîneur qui a fait de tout feu, tout flamme dans les endroits où il est passé. Mais c'est encore une fois, c'est souvent dans le monde du hockey, des liens passés qui font en sorte que des gens sont embauchés. Le lien de confiance entre l'entraîneur et le directeur général. McLellan a des liens avec Détroit. Il a été adjoint
En 2005, là-bas,
oui. Oui, oui, il a déjà passé dans cette organisation-là. Ça doit être réconfortant pour un directeur général qui voit son plan s'émietter après 5 ans, de dire, ben on va mettre un gars qui a du métier, qui connaît l'environnement des Red Wings, qui était là quand on avait une tradition gagnante. Mais la réalité maintenant, quand on parle, les analystes, les amateurs, les animateurs ensemble, quand on parle de hockey, on parle toujours des entraîneurs, des directeurs généraux, mais les hommes clés à cette heure dans les organisations de la Ligue nationale, parce que l'accès au marché de l'autonomie est très restreint, c'est le recruteur en chef, c'est le responsable du recrutement amateur qui est le gars clé, c'est lui qui bâtit l'organisation. Puis si ce gars-là fonctionne pas, si ce gars-là est pas capable d'avoir un rendement qui a de l'allure comparativement à la compétition, t'as beau avoir le plan que tu voudras, tu vas toujours être en rattrapage, tu vas toujours être en train de faire du rapiessage. Puis tu regardes l'alignement des Red Wings, c'est des Vladimir Tarasenko qui a 33 ans, Andrew Kopp, je l'aime bien, là, c'est une belle acquisition, un gars de 30 ans, mais c'est un gars qu'on a dû aller chercher ailleurs. Patrick Kane qui a 36 ans, Justin Hall à défense qui va avoir 33 ans, Ben Chiarot qui a 33 ans, Jeff Petrie qui est rendu à 37 ans, un gars comme Eric Gustafsson qui a fait plein d'organisations qui a 32 ans. Fait que tu bâtis rien, là. Tu fais juste combler des places, remplir des chandails, essayer d'éteindre un feu après un autre. Fait que c'est difficile de construire un projet gagnant avec ça. Puis celui qui s'occupe du recrutement amateur depuis que Steve Yzerman est en poste, c'est Steve Yzerman qui l'a nommé. Quand il est arrivé, Steve Yzerman a congédié le responsable du recrutement amateur qui s'appelait Tyler Wright. Puis il l'a remplacé par son ancien coéquipier Chris Draper. Puis, à date, Chris Draper n'a pas fait le travail. Puis, c'est probablement ça qui va finir éventuellement par coûter son poste aussi à Steve Yzerman.
Bien, certainement. Et celui de Draper également. Puis, je connais pas Tyler Wright, mais j'aimerais ça voir quelle est sa fiche. T'sais, il était là combien de temps? Et parce qu'on sait que les Red Wings avaient une réputation de bien repêcher, de bien développer des joueurs là, depuis plusieurs années, là.
Oui, à l'époque de Ken Holland, c'était quasiment un exploit impensable de percer l'alignement des Red Wings sans jouer dans la Ligue américaine une ou deux saisons avant avec Grand Rapids, avant de graduer avec le club. Ça faisait partie de la mentalité de l'organisation. On te repêche, on va te développer comme un joueur de la Ligue nationale, puis quand tu vas arriver, tu vas être un homme, puis tu vas jouer comme un professionnel. Et ils ont perdu un peu cette saveur-là, les Red Wings, cette façon de faire-là. Puis, on le voit, là, tu sais, 61 choix de repêchage entre 2017-2023, puis t'en as trois qui jouent régulièrement dans la Ligue nationale jusqu'à présent. Fait que c'est épouvantable, là. Ce sont des années de défaite après défaite après défaite que les amateurs ont encaissé, qui finalement donnent pas grand-chose. Et puis, Steve Yzerman a beau être le meilleur architecte au monde, là, s'il n'y a pas de matériaux pour construire, il peut rien construire.
Non, certainement. Et pour moi, je trouve ça triste parce que c'est une des six équipes originales. Et pour moi, j'associe, du haut de mes 38 ans, j'associe les Red Wings comme étant une force perpétuelle dans la Ligue nationale. Là, au début des années 2000, on se rappelle à quel point c'était, fin des années 90 également, à quel point c'était dominant les Red Wings de Détroit, qu'on les associait étant une force. Et de voir ça présentement, je trouve ça vraiment dommage. Et de voir que le futur n'est pas plus rose, là, à moins qu'on soit capable de faire, pour citer un autre directeur général, un reset sur le fly, et qu'on revire l'organisation à 180, là, je pense pas que dans les 3 à 5 prochaines années, cet horizon-là, ça soit pas mal plus rose. Là.
Non. Fait que, tu sais, tu regardes la situation de l'équipe, là, puis toutes les études scientifiques qui ont été faites sur les changements d'entraîneurs dans tous les sports professionnels imaginables montrent que quand un nouvel entraîneur arrive dans une équipe qui n'est pas talentueuse, il y a un petit soubresaut. Souvenez-vous, quand Martin Saint-Louis est arrivé chez le Canadien, l'équipe avait gagné 4 victoires de suite. Là. Il y a un petit soubresaut, puis après ça, le naturel revient, puis tu peux pas, comment qu'on dit, tu peux pas faire du diamant avec de la cruche ou je sais pas quoi, mais ben c'est ça. T'es obligé de travailler avec le talent que tu as, puis je pense pas que c'est Todd McLellan qui va corriger ça à Détroit. Là.
Non, effectivement, pour l'avoir bien connu, avoir connu son passage, puis voir les réactions des fans et étudier beaucoup ce qui s'est passé avec les Kings de Los Angeles, je peux te dire que non, effectivement, c'est peut-être pas la solution au Todd McLellan, mais c'est peut-être un petit passage temporaire qui s'en vient en attendant que quelqu'un d'autre arrive et que ce soit tout l'état-major qui change probablement avec les Red Wings. On verra ça. Pour l'instant, le Canadien, demain, qui commence son fameux périple des fêtes. On a déjà un match de jouer dans le voyage, mais la portion la plus importante commence demain contre des adversaires qui vont très, très, très bien par les temps qui courent.
Ouais, tu sais, la portion avant les fêtes, avant Noël, était disons plus douce, là. On affrontait des équipes du dernier tiers de la Ligue nationale, mais là, c'est vraiment une rude portion qui commence pour le Canadien. 3 matchs en 4 jours contre les Panthers demain après-midi, contre le Lightning dimanche, puis à Vegas contre les Golden Knights le 31 décembre. 3 équipes qui ont remporté la Coupe Stanley récemment. 3 équipes qui sont encore des aspirantes pour la Coupe cette année. Puis toutes 3 équipes qui vont bien. Tu sais, tu regardes les Panthers, 4 victoires à leurs 5 derniers matchs. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Matthew Tkachuk. Là, à Montréal, on a hâte de voir ce qui va arriver avec Patrick Laine. Quand Laine est arrivé à Montréal, on savait qu'il était un joueur qui est souvent blessé, qui est très souvent blessé. Il a eu sa blessure au genou, subi au camp d'entraînement. J'ai hâte de voir s'il va être absent pour un bout de temps prolongé. Là. Mais Matthew Tkachuk, c'est primordial en Floride. Et je ne sais pas si vous avez vu la mise en échec, genou sur genou, le contact
dégueulasse. Là. Je sais qu'il y a plusieurs qui disent que Matthew Tkachuk a étiré la jambe et que Kucherov s'en allait frapper le torse et tout ça. Mais pour moi, ça reste quand même un contact de genou à genou qui aurait pu être évitable.
Oui, ben écoute, ça se passe rapidement. Puis un joueur élite comme Kucherov, quand tu fais un contact genou à genou, c'est pas garanti que c'est celui de l'adversaire qui va plier dans le mauvais sens. Ça peut être le tien aussi. Fait que, tu sais, mais ça paraissait mal. Je suis d'accord avec toi que ça paraissait mal. Puis je sais pas s'il va y avoir des suites pour Kucherov, mais Tkachuk, c'est vraiment important. Puis le genre de blessure que tu peux subir sur ce genre de contact-là, on le sait. On l'a vu avec Patrick Laine. Là, ça peut sortir un gars de l'alignement pour longtemps. Puis ça peut changer la trajectoire d'une carrière. Fait qu'on va surveiller ça de près, les nouvelles qui vont provenir de Floride. Tu regardes le Lightning, c'est incroyable. On parlait des liens entre Détroit et Tampa Bay tantôt. Il y a beaucoup de gens, quand Steve Yzerman est parti de Tampa Bay, puis que Julien Brisebois a pris les commandes du Lightning, qui disaient, Julien Brisebois, c'est un bon directeur général parce qu'il a hérité, il était sous le manteau de Steve Yzerman, puis il a hérité de l'alignement de Steve Yzerman, puis il n'y a pas grand mérite, Julien Brisebois. Mais regardez qu'est-ce qu'il fait avec son équipe, là. Il a pris des décisions extrêmement audacieuses durant l'été. Steven Stamkos, il a laissé partir Steven Stamkos, il a échangé Mikhail Sergachev. Puis présentement, Tampa Bay est l'équipe la plus productive de la Ligue nationale. Ils sont à pas loin de 4 buts par match de marqué. En défense, ils sont 7e. Ils sont en train de redevenir un peu ce qu'ils étaient quand ils étaient des vrais aspirants à la Coupe Stanley. Puis même si Stamkos, qui était une pierre angulaire de leur avantage numérique, est parti, leur avantage numérique est 3e dans la Ligue nationale. Elle fonctionne à 27%. C'est une organisation qui est extrêmement solide, extrêmement bien dirigée.
C'est incroyable.
Puis tu regardes les ajouts que Brisebois a fait, tu sais, Jake Gensel au sein du premier trio, Brendan Hagel, c'est un gars qui a été cherché, Nick Paul, le centre du troisième trio, c'est un gars qui a été cherché, J.J. Moser, que dans la transaction avec Mikhail Sergachev en défense, là, il est blessé, Moser, mais il campe le rôle de défenseur de première paire de façon remarquable. Il est retourné chercher Ryan McDonough à Nashville. Nashville s'est écroulé complètement, puis le Lightning a été comme soulevé par l'arrivée de McDonough aussi, qui est tout un leader.
Barry Trotz, écoute, faudrait se faire une chronique sur Barry Trotz, puis peut-être que ça va tomber ensemble dans le temps des fêtes, Martin, si finalement Andrew Brunette est congédié ou quoi que ce soit, là, mais je veux dire, Barry Trotz, malheureusement, on dirait qu'il avait bien commencé son règne de directeur général, mais toutes les décisions qu'il a prises n'ont pas fonctionné présentement. Tu l'as dit, échanger Ryan McDonough, a signé Carrier pour l'échanger. Tu l'as dit, a signé Stamkos et Marchessault à gros prix. Le Marchessault roule à fond de train là, dans les dernières semaines et c'est tant mieux pour lui qu'il ait finalement trouvé sa place. C'est vraiment, vraiment difficile. Il n'y a personne qui s'attendait à ça à Nashville non plus.
Non. Puis, tu sais, ça soulève une question. C'est très, très rare qu'on voit un entraîneur de carrière. Tu sais, Barry Trotz, c'est un gars qui est entraîneur depuis 30 ans, là, puis qui a été nommé directeur général. Tu sais, même Scotty Bowman n'avait pas été capable de faire cette transition-là quand il était passé de chez le Canadien au Sabre de Buffalo à l'époque. Puis on parle du plus grand entraîneur de tous les temps. Là. Mm-hmm. C'est pas la même gestion, c'est pas le même contact avec les joueurs, c'est pas le même type de prévision. Quand tu es entraîneur, tu vis au jour le jour, puis tu développes ton alignement, puis tu es un peu comme un ingénieur en F1. Là, tu fais des réglages tout le temps pour que ton véhicule soit plus performant, mais la gestion de personnel, à cette heure, être directeur général dans la Ligue nationale, là, écoute, c'est comme être PDG d'une entreprise. Tu as des équipes de statistiques avancées à gérer, des équipes de recruteurs, des équipes, une équipe administrative, tu as ton équipe sportive, les thérapeutes. C'est énormément, c'est un travail de gestionnaire, puis c'est comme un métier. On sourcille toujours quand un gars est nommé entraîneur du jour au lendemain dans la Ligue nationale sans avoir fait ses classes auparavant, parce qu'on dit, être joueur, être entraîneur, ce sont deux métiers complètement différents. Mais être entraîneur et être directeur général, être administrateur et être entraîneur, ce sont deux emplois totalement différents aussi.
Tu as tellement raison, Martin. Et merci pour cette belle discussion ce matin. Je sais que les gens sont très enchantés que tu sois avec nous. Repose-toi ce week-end et j'ai déjà hâte de te reparler lundi matin, mon cher ami.
Bon week-end à tous ceux qui nous écoutent, les courageux qui se lèvent encore tôt le matin durant la période des fêtes. Puis j'ai hâte de vous retrouver lundi.
Très, très hâte. Merci, Martin. Prends bien soin de toi.
Bye-bye.
Bye-bye.